Critique de la raison pure par Emmanuel Kant. Première partie, esthétique transcendantale. Paragraphe 1er. De quelque manière et par quelque moyen qu'une connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel la connaissance se rapporte immédiatement à des objets et que toute pensée se propose comme moyen est l'intuition. Mais l'intuition n'a lieu qu'autant qu'un objet nous est donné, et à son tour, un objet ne peut nous être donné qu'à la condition d'affecter l'esprit d'une certaine manière. La capacité de recevoir, la réceptivité des représentations, des objets par la manière dont ils nous affectent, s'appelle sensibilité. C'est donc au moyen de la sensibilité que les objets nous sont donnés, et elle seule nous fournit des intuitions. Mais c'est par l'entendement qu'ils sont pensés, et c'est de lui que sortent les concepts. Toute pensée doit aboutir, en dernière analyse, soit directement, direct, soit indirectement, indirect, à des intuitions, et par conséquent, à la sensibilité qui est en nous, puisqu'aucun objet ne peut nous être donné autrement. L'effet d'un objet sur la capacité de représentation, en tant que nous sommes affectés par lui, est la sensation. On nomme empirique toute intuition qui se rapporte à l'objet par le moyen de la sensation. L'objet indéterminé d'une intuition empirique s'appelle phénomène. Ce qui, dans le phénomène, correspond à la sensation, je l'appelle la matière de ce phénomène. Mais ce qui fait que ce qu'il y a en lui de divers peut être ordonné suivant certains rapports, je le nomme la forme du phénomène. Comme ce en quoi les sensations se coordonnent nécessairement, ou ce qui seul permet de les ramener à une certaine forme, ne saurait être lui-même sensation, il suit que, si la matière de tout phénomène ne peut nous être donnée qu'a posteriori, la forme en doit être a priori dans l'esprit, toute prête à s'appliquer à tous, et que, par conséquent, on doit pouvoir la considérer indépendamment de toute sensation. J'appelle pure, dans le sens transcendantal, toutes les représentations où l'on ne trouve rien qui se rapporte à la sensation. La forme pure des intuitions, dans laquelle tous les éléments divers des phénomènes sont perçus sous certains rapports, doit donc être en général a priori dans l'esprit. Cette forme pure de la sensibilité peut être désignée elle-même sous le nom d'intuition pure. Ainsi, lorsque, dans la représentation d'un corps, je fais abstraction de ce que l'entendement en conçoit, comme la substance, la force, la divisibilité, etc., ainsi que ce qui revient à la sensation, comme l'impénétrabilité, la dureté, la couleur, etc., il me reste encore quelque chose de cette intuition empirique, à savoir l'étendue et la figure. Or c'est là précisément ce qui appartient à l'intuition pure, laquelle se trouve a priori dans l'esprit, comme une simple forme de la sensibilité, indépendamment même de tout objet réel des sens ou de toute sensation. J'appelle esthétique transcendantale la science de tous les principes a priori de la sensibilité. Cette science doit donc former la première partie de la théorie élémentaire transcendantale, par opposition à celle qui contient les principes de la pensée pure et qui se nomme logique transcendantale. Dans l'esthétique transcendantale, nous commencerons par isoler la sensibilité, en faisant abstraction de tout ce que l'entendement y ajoute par ses concepts, de telle sorte qu'il ne reste rien que l'intuition empirique. Nous en écarterons ensuite tout ce qui appartient à la sensation, afin de n'avoir plus que l'intuition pure et la simple forme des phénomènes, seule chose que la sensibilité puisse fournir a priori. Il résultera de cette recherche qu'il y a deux formes pures de l'intuition sensible comme principe de la connaissance a priori, savoir, l'espace et le temps. Nous allons les examiner. Première section, de l'espace. Paragraphe 2, exposition métaphysique du concept de l'espace. Au moyen de cette propriété de notre esprit, qui est le sens extérieur, nous nous représentons certains objets comme étant hors de nous et placés tous dans l'espace. C'est là que leur figure, leur grandeur et leur rapport réciproque sont déterminés, ou peuvent l'être. Le sens interne, au moyen duquel l'esprit s'aperçoit lui-même ou aperçoit son état intérieur, ne nous donne sans doute aucune intuition de l'âme elle-même comme objet. Mais il faut admettre, ici, une forme déterminée qui seule rend possible l'intuition de son état interne, et d'après laquelle tout ce qui appartient à ses déterminations intérieures est représenté suivant des rapports de temps. Le temps ne peut pas être perçu extérieurement, pas plus que l'espace ne peut l'être comme quelque chose en nous. Qu'est-ce donc que l'espace et le temps? Sont-ce des êtres réels? Sont-ce seulement des déterminations? Ou même de simples rapports des choses? Et ces rapports sont-ils de telle nature qu'ils ne cesseraient pas de subsister entre les choses, alors même qu'ils ne seraient pas perçus? Ou bien dépendent-ils uniquement de la forme de l'intuition? Et par conséquent, de la constitution subjective de notre esprit, sans laquelle ces prédicats ne pourraient être attribués à aucune chose. Pour répondre à ces questions, examinons d'abord le concept de l'espace. J'entends par exposition, la représentation claire, quoique non détaillée, de ce qui appartient à un concept. Cette exposition est métaphysique lorsqu'elle contient ce qui montre le concept comme donné a priori. L'espace n'est pas un concept empirique dérivé d'expériences extérieures. En effet, pour que je puisse rajouter certaines sensations à quelque chose d'extérieur à moi, c'est-à-dire quelque chose placé dans un autre lieu de l'espace que celui où je me trouve, et de même, pour que je puisse me représenter les choses comme en dehors et à côté les unes des autres, et par conséquent comme n'étant pas seulement différentes, mais placées en des lieux différents, il faut que la représentation de l'espace existe déjà en moi. Cette représentation ne peut être tirée par l'expérience des rapports des phénomènes extérieurs. Mais cette expérience extérieure n'est elle-même possible qu'au moyen de cette représentation. L'espace est une représentation nécessaire, a priori, qui sert de fondement à toutes les intuitions extérieures. Il est impossible de se représenter qu'il n'y ait point d'espace, quoiqu'on puisse bien concevoir qu'il ne s'y trouve pas d'objet. Il est donc considéré comme la condition de la possibilité des phénomènes, et non pas comme une détermination qui en dépende. Et il n'est autre chose qu'une représentation a priori servant nécessairement de fondement aux phénomènes extérieurs. L'espace n'est donc pas un concept discursif, ou, comme on dit, un concept universel de rapport de choses en général, mais une intuition pure. En effet, d'abord, on ne peut se représenter qu'un seul espace. Et quand on parle de plusieurs espaces, on entend par là que les parties d'un seul et même espace. Ces parties ne sauraient non plus être antérieures à cet espace unique qui comprend tout, comme si elles en étaient les éléments et qu'elles le constituassent par leur assemblage. Elles ne peuvent, au contraire, être conçues qu'en lui. Il est essentiellement un. La diversité que nous y reconnaissons, et par conséquent le concept universel d'espace en général, ne repose que sur des limitations. Il suit de là qu'une intuition a priori, non empirique, sert de fondement à tous les concepts que nous en formons. C'est ainsi que tous les principes géométriques, comme celui-ci par exemple, que dans un triangle, deux côtés pris ensemble sont plus grands que le troisième, ne sortent pas avec leur certitude apodictique des concepts généraux de lignes et de triangles, mais de l'intuition, et d'une intuition a priori. L'espace est représenté comme une grandeur infinie donnée. Il faut regarder tout concept comme une représentation contenue elle-même dans une multitude infinie de représentations diverses possibles, dont elle est le signe commun, et qui par suite les subsume. Mais nul concept ne peut, comme tel, être considéré comme contenant une multitude infinie de représentations. Or c'est pourtant ainsi que nous concevons l'espace, car toutes les parties de l'espace coexistent à l'infini. La représentation originaire de l'espace est donc une intuition a priori et non pas un concept. Paragraphe 3. Exposition transcendantale du concept de l'espace. Montrer comment un certain concept est un principe qui explique la possibilité d'autres connaissances synthétiques a priori, voilà ce que j'appelle en faire une exposition transcendantale. Or, cela suppose deux choses. Premièrement, que des connaissances de cette nature dérivent réellement du concept donné. Deuxièmement, que ces connaissances ne sont possibles que suivant le mode d'application tiré de ce concept. La géométrie est une science qui détermine synthétiquement, et pourtant a priori, les propriétés de l'espace. Que doit donc être la représentation de l'espace pour qu'une telle connaissance en soit possible? Il faut qu'elle soit originairement une intuition, car il est impossible de tirer d'un simple concept des propositions qui le dépassent, comme cela arrive pourtant en géométrie. Mais cette intuition doit se trouver en nous a priori, c'est-à-dire antérieurement à toute perception d'un objet, et par conséquent être pure et non empirique. En effet, les propositions géométriques, comme celle-ci par exemple, l'espace n'a que trois dimensions, sont toutes apodictiques, c'est-à-dire qu'elles impliquent la conscience de leur nécessité. Elles ne peuvent donc être des jugements empiriques ou d'expérience, ni en dérivés. Mais comment peut-il y avoir dans l'esprit une intuition extérieure qui précède les objets mêmes et qui en détermine a priori le concept? Cela ne peut évidemment arriver qu'autant qu'elle ait son siège dans le sujet, comme la propriété formelle de la capacité qu'il a d'être affecté par des objets et d'en recevoir ainsi une représentation immédiate, c'est-à-dire une intuition, par conséquent comme forme du sens extérieur en général. Notre explication fait donc comprendre la possibilité de la géométrie comme connaissance synthétique a priori. tout mode d'explication qui n'offre pas cet avantage peut être à ce signe très sûrement distingué d'une autre, quelque ressemblance qu'il puisse avoir avec lui en apparence. Conséquence tirée de ce qui précède. Grand A, l'espace ne représente aucune propriété des choses, soit qu'on les considère en elles-mêmes ou dans leur rapport entre elles. En d'autres termes, il ne représente aucune détermination qui soit inhérente aux objets même et qui subsiste, abstraction faite, de toutes les conditions subjectives de l'intuition. En effet, il n'y a point de détermination, soit absolue, soit relative, qui puisse être aperçue antérieurement à l'existence des choses auxquelles elles appartiennent, et par conséquent a priori. Grand B. L'espace n'est autre chose que la forme de tous les phénomènes des sens extérieurs, c'est-à-dire la seule condition subjective de la sensibilité sous laquelle soit possible pour nous une intuition extérieure. Or, comme la réceptivité en vertu de laquelle le sujet peut être affecté par des objets précède nécessairement toutes les intuitions de ces objets, on comprend aisément comment la forme de tous ces phénomènes peut être donnée dans l'esprit antérieurement à toutes les perceptions réelles, par conséquent a priori, et comment, étant une intuition pure où tous les objets doivent être déterminés, elle peut contenir antérieurement à toute expérience des principes de leur rapport. Nous ne pouvons donc parler d'espace, d'être étendu, etc., qu'au point de vue de l'homme, que si nous sortons de la condition subjective sous laquelle nous ne saurions recevoir d'intuition extérieure, c'est-à-dire être affecté par les objets, la représentation de l'espace ne signifie absolument plus rien. Les choses ne reçoivent ce prédicat qu'autant qu'elles nous apparaissent, c'est-à-dire comme objet de la sensibilité. La forme constante de cette réceptivité, que nous nommons sensibilité, est la condition nécessaire de tous les rapports où nous percevons les objets comme extérieurs à nous. Et si l'on fait abstraction de ces objets, elle est une intuition pure qui prend le nom d'espace. Comme nous ne saurions voir dans les conditions particulières de la sensibilité les conditions de la possibilité des choses mêmes, mais celles seulement de leur manifestation, nous pouvons bien dire que l'espace contient toutes les choses qui peuvent nous apparaître extérieurement, mais non pas toutes ces choses en elles-mêmes, qu'elles soient ou non perçues, et quel que soit le sujet qui les perçoive. En effet, nous ne saurions juger des intuitions que peuvent avoir d'autres êtres pensants, et savoir si elles sont soumises aux conditions qui limitent les nôtres et qui ont pour nous une valeur universelle. Que si au concept qu'a le sujet, nous joignons un jugement restrictif, alors notre jugement a une valeur absolue. Cette proposition « toutes les choses sont juxtaposées dans l'espace » n'a de valeur qu'avec cette restriction, que ces choses soient prises comme objets de notre intuition sensible. Si donc j'ajoute ici la condition au concept et que je dise « toutes les choses en tant que phénomène extérieur sont juxtaposées dans l'espace », cette règle a une valeur universelle et sans restriction. Notre examen de l'espace nous en montre donc la réalité, c'est-à-dire la valeur objective, au point de vue de la perception des choses comme objet extérieur. Mais il nous en révèle aussi l'idéalité, au point de vue de la raison considérant les choses en elles-mêmes, c'est-à-dire abstraction faite de la constitution de notre sensibilité. Nous affirmons donc la réalité empirique de l'espace, relativement à toute expérience extérieure possible. Mais nous en affirmons aussi l'idéalité transcendantale, c'est-à-dire la non-existence dès que nous laissons de côté les conditions de la possibilité de toute expérience et que nous nous demandons s'il peut servir de fondement aux choses en soi. D'un autre côté, outre l'espace, il n'y a pas d'autre représentation subjective et se rapportant à quelque chose d'extérieur qui puisse être appelée objective a priori. Il n'est en effet aucune de ces représentations d'où l'on puisse tirer des propositions synthétiques a priori, comme celles qui dérivent de l'intuition de l'espace. Aussi, à parler exactement, n'ont-elles aucune espèce d'idéalité, encore qu'elles aient ceci de commun avec la représentation de l'espace, de dépendre uniquement de la constitution subjective de la sensibilité, par exemple de la vue, de l'ouïe, du tact. Mais les sensations des couleurs, des sons, de la chaleur, étant de pures sensations et non des intuitions, ne nous font connaître par elles-mêmes aucun objet, du moins a priori. Le but de cette remarque est d'empêcher qu'on ne s'avise de vouloir expliquer l'idéalité attribuée à l'espace par des exemples entièrement insuffisants, comme les couleurs, les saveurs, etc., que l'on regarde avec raison, non comme des propriétés des choses, mais comme de pures modifications du sujet, et qui peuvent être fort différentes suivant les différents individus. En effet, dans ce dernier cas, ce qui n'est originairement qu'un phénomène, par exemple une rose, a dans le sens empirique la valeur d'une chose en soi, bien que, quant à la couleur, elle puisse paraître différente aux différents yeux. Au contraire, le concept transcendantal des phénomènes dans l'espace nous suggère cette observation critique que rien en général de ce qui est perçu dans l'espace n'est une chose en soi, et que l'espace n'est pas une forme des choses considérées en elles-mêmes, mais que les objets ne nous sont pas connus en eux-mêmes, et que ce que nous nommons objet extérieur consiste dans de simples représentations de notre sensibilité, dont l'espace est la forme, mais dont le véritable corrélatif, c'est-à-dire la chose en soi, n'est pas et ne peut pas être connu par là. Aussi bien ne s'en enquiert-on jamais dans l'expérience. Deuxième section, du temps. Paragraphe 4. Exposition métaphysique du concept du temps. Petit 1. Le temps n'est pas un concept empirique ou qui dérive de quelque expérience. En effet, la simultanéité ou la succession ne tomberait pas elle-même sous notre perception si la représentation du temps ne lui servait a priori de fondement. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons nous représenter une chose comme existant dans le temps, qu'une autre comme simultanée avec elle, ou dans un autre temps, comme la précédant ou lui succédant. Petit 2. Le temps est une représentation nécessaire qui sert de fondement à toutes les intuitions. On ne saurait supprimer le temps lui-même par rapport aux phénomènes en général, quoique l'on puisse bien les retrancher du temps par la pensée. Le temps est donc donné a priori. Sans lui, toute réalité des phénomènes est impossible. On peut les supprimer tous, mais lui-même, comme condition générale de leur possibilité, ne peut être supprimé. Petit 3. Sur cette nécessité se fonde aussi a priori la possibilité de principes apodictiques concernant les rapports du temps ou d'axiomes du temps en général comme ceci. Le temps n'a qu'une dimension. Des temps différents ne sont pas simultanés, mais successifs, tandis que des espaces différents ne sont pas successifs, mais simultanés. Ces principes ne peuvent pas être tirés de l'expérience, car celle-ci ne saurait donner ni absolue généralité, ni certitude apodictique. Il faudrait se borner à dire « voilà ce qu'enseigne l'observation générale » et non « voilà ce qui doit être ». Ils ont donc la valeur de règles servant en général à rendre possible l'expérience, bien loin que celle-ci nous les enseigne. Ce sont eux qui nous instruisent à son sujet. Petit 4. Le temps n'est pas un concept discursif, ou comme on dit général, mais une forme pure de l'intuition sensible. Les temps différents ne sont que des parties d'un même temps, une représentation qui ne peut être donnée que par un seul objet est une intuition. Aussi cette proposition que des temps différents ne peuvent exister simultanément ne saurait-elle dériver d'un concept général. Elle est synthétique et ne peut être uniquement tirée de concepts. Elle est donc immédiatement contenue dans l'intuition et dans la représentation du temps. Petit 5. L'infinité du temps ne signifie rien autre chose, sinon que toute quantité déterminée du temps n'est possible que comme circonscription d'un temps unique qui lui sert de fondement. Il faut donc que la représentation originaire du temps soit donnée comme illimitée. Or, quand les parties mêmes d'une chose, quand toutes les quantités d'un objet ne peuvent être représentées et déterminées qu'au moyen d'une limitation de cet objet, alors la représentation entière ne peut être donnée que par des concepts, car ceux-ci ne contiennent que des représentations partielles. Mais il y a une intuition immédiate qui leur sert de fondement. Paragraphe 5. Exposition transcendantale du concept du temps. Je me borne à renvoyer le lecteur au paragraphe 3, où, pour plus de brièveté, j'ai placé sous le titre d'exposition métaphysique ce qui est proprement transcendantal. J'ajouterai seulement ici que le concept du changement, ainsi que celui du mouvement comme changement de lieu, ne sont possibles que par et dans la représentation du temps, et que, si cette représentation n'était pas une intuition interne a priori, nul concept, quel qu'il fût, ne pourrait nous faire comprendre la possibilité d'un changement, c'est-à-dire d'une liaison de prédicats contradictoirement opposés dans un seul et même objet. Par exemple, l'existence d'une chose dans un lieu et la non-existence de cette même chose dans le même lieu. Ce n'est que dans le temps, c'est-à-dire successivement, que deux déterminations contradictoirement opposées peuvent convenir à une même chose. Notre concept du temps explique donc la possibilité de toutes les connaissances synthétiques a priori que contient la théorie générale du mouvement, qui n'est pas peu féconde. Paragraphe 6. Conséquences tirées de ce qui précède. Grand A. Le temps n'est pas quelque chose qui existe par soi-même ou qui soit inhérent aux choses comme une propriété objective et qui, par conséquent, subsiste quand on fait abstraction de toutes les conditions subjectives de leur intuition. Dans le premier cas, il faudrait qu'il fût quelque chose qui exista réellement, sans objet réel. Dans le second, étant un ordre inhérent aux choses mêmes, il ne pourrait être la condition préalable de la perception des objets, et nous être donné ou connu a priori par des propositions synthétiques. Rien n'est plus facile, au contraire, si le temps n'est que la condition subjective de toutes les intuitions que nous pouvons avoir. Alors en effet, cette forme de l'intuition interne peut être présentée antérieurement aux objets, et par conséquent a priori. Grand B. Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. En effet, il ne peut être une détermination des phénomènes extérieurs. Il n'appartient ni à la figure, ni à la position, etc. Mais il détermine lui-même le rapport des représentations dans notre état intérieur. Et précisément, parce que cette intuition intérieure n'offre aucune figure, nous cherchons à réparer ce défaut par l'analogie. Nous représentons la suite du temps par une ligne qui s'étend à l'infini et dont les diverses parties constituent une série qui n'a qu'une dimension. Et nous concluons des propriétés de cette ligne à celles du temps, avec cette seule exception que les parties de la première sont simultanées, tandis que celles du second sont toujours successives. On voit aussi par là que la représentation du temps est une intuition, puisque toutes ces relations peuvent être exprimées par une intuition extérieure. Grand C. Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général. L'espace, comme forme pure de toute intuition externe, ne sert de condition a priori qu'aux phénomènes extérieurs. Au contraire, comme toutes les représentations, qu'elles aient ou non pour objet des choses extérieures, appartiennent toujours par elles-mêmes, en tant que détermination de l'esprit, à un état intérieur, et que cet état intérieur, toujours soumis à la condition formelle de l'intuition interne, rentre ainsi dans le temps. Le temps est la condition a priori de tout phénomène en général, la condition immédiate des phénomènes intérieurs de notre âme, et par là même la condition médiate de tous les phénomènes extérieurs. Si je puis dire a priori que tous les phénomènes extérieurs sont dans l'espace et qu'ils sont déterminés a priori suivant les relations de l'espace, je puis dire d'une manière tout à fait générale du principe du sens interne, que tous les phénomènes en général, c'est-à-dire tous les objets, les sens, sont dans le temps, et qu'ils sont nécessairement soumis aux relations du temps. Si nous faisons abstraction de notre mode d'intuition interne et de la manière dont, au moyen de cette intuition, nous embrassons aussi toutes les intuitions externes dans notre faculté de représentation, et si par conséquent nous prenons les objets comme ils peuvent être en eux-mêmes, alors le temps n'est rien. Il n'a de valeur objective que relativement aux phénomènes, parce que les phénomènes sont des choses que nous regardons comme des objets de nos sens. Mais cette valeur objective disparaît dès qu'on fait abstraction de la sensibilité de notre intuition, ou de ce mode de représentation qui nous est propre, et que l'on parle des choses en général. Le temps n'est donc autre chose qu'une condition subjective de notre humaine intuition, laquelle est toujours sensible, c'est-à-dire ne se produit qu'au temps que nous sommes affectés par des objets. En lui-même, en dehors du sujet, il n'est rien. Il n'en est pas moins nécessairement objectif par rapport à tous les phénomènes, par conséquent aussi à toutes les choses que peut nous offrir l'expérience. On ne peut pas dire que toutes les choses sont dans le temps, puisque dans le concept des choses en général, on fait abstraction de toute espèce d'intuition de ces choses, et que l'intuition est la condition particulière qui fait rentrer le temps dans la représentation des objets. Mais si l'on ajoute la condition au concept et que l'on dise toutes les choses en tant que phénomène, en tant qu'objet de l'intuition sensible, sont dans le temps, ce principe a dans ce sens une véritable valeur objective et il est universel a priori. Toutes ces considérations établissent donc la réalité empirique du temps, c'est-à-dire sa valeur objective relativement à tous les objets qui peuvent jamais s'offrir à nos sens. Et comme notre intuition est toujours sensible, il ne peut jamais y avoir d'objet donné dans l'expérience qui ne rentre sous la condition du temps. Nous n'admettons donc pas que le temps puisse prétendre à une réalité absolue, comme si, même abstraction faite de la forme de notre intuition sensible, il appartenait absolument aux choses à titre de condition ou de propriété. Ces sortes de propriétés qui appartiennent aux choses en soi ne sauraient jamais d'ailleurs nous être données par les sens. Il faut donc admettre l'idéalité transcendantale du temps, en ce sens que, si l'on fait abstraction des conditions subjectives de l'intuition sensible, il n'est plus rien, et qu'il ne peut être attribué aux choses en soi, indépendamment de leur rapport avec notre intuition, soit à titre de substance, soit à titre de qualité. Mais cette idéalité, de même que celle de l'espace, n'a rien de commun avec les subreptions de la sensation. Dans ce cas, on suppose que le phénomène même auquel appartiennent tels ou tels attributs a une réalité objective, tandis que cette réalité disparaît entièrement ici, à moins qu'on ne veuille parler d'une réalité empirique, c'est-à-dire une réalité qui, dans l'objet, ne s'applique qu'au phénomène. Voyez plus haut sur ce point la remarque de la première section. Paragraphe 7. Explication. Cette théorie qui attribue au temps une réalité empirique, mais qui lui refuse la réalité absolue et transcendantale, a soulevé chez des esprits pénétrants une objection si uniforme que j'en conclus que la même objection doit naturellement venir à la pensée de tout lecteur à qui ces considérations ne sont pas familières. Voici comment elles se formulent. Il y a des changements réels. C'est ce que prouve la succession de nos propres représentations. Dût-on nier tous les phénomènes extérieurs, ainsi que leurs changements? Or, les changements ne sont possibles que dans le temps. Donc, le temps est quelque chose de réel. La réponse ne présente aucune difficulté. J'accorde l'argument tout entier. Oui, le temps est quelque chose de réel. C'est en effet la forme réelle de l'intuition interne. Il a donc une réalité objective par rapport à l'expérience intérieure. C'est-à-dire que j'ai réellement la représentation du temps et de mes représentations dans le temps. Il ne doit donc pas être réellement considéré comme un objet, mais comme un mode de représentation de moi-même en tant qu'objet. Que si je pouvais avoir l'intuition de moi-même ou d'un autre être indépendamment de cette condition de la sensibilité, ces mêmes déterminations que nous représentons actuellement comme des changements nous donneraient une connaissance où ne se trouverait plus la représentation du temps et par conséquent aussi du changement. Il y a donc bien une réalité empirique comme condition de toutes nos expériences. Mais d'après ce que nous venons de dire, on ne saurait lui accorder une réalité absolue. Il n'est autre chose que la forme de notre intuition interne. Si l'on retranche de cette intuition la condition particulière de notre sensibilité, alors le concept du temps disparaît aussi. Il n'est point inhérent aux choses eux-mêmes, mais seulement au sujet qui perçoit. Quelle est donc la cause ? Pourquoi cette objection a été faite si unanimement et par des hommes qui n'ont rien d'évident à opposer à la doctrine de l'idéalité de l'espace? C'est qu'ils n'espéraient pas pouvoir démontrer apodictiquement la réalité absolue de l'espace. Arrêtés qu'ils étaient par l'idéalisme, suivant lequel la réalité des objets extérieurs n'est susceptible d'aucune démonstration rigoureuse, tandis que celle de l'objet de nos sens intérieurs, de moi-même et de mon état, leur paraissait immédiatement révélée par la conscience. Les objets extérieurs, pensait-il, pourraient bien n'être qu'une apparence. Mais le dernier est incontestablement quelque chose de réel. Il ne songeait pas que ces deux sortes d'objets, quelque réels qu'ils soient à titre de représentation, ne sont cependant que des phénomènes, et que le phénomène doit toujours être envisagé sous deux points de vue. L'un, où l'objet est considéré en lui-même, indépendamment de la manière dont nous l'apercevons, l'autre où l'on a égard à la forme de l'intuition de cet objet, laquelle doit être cherchée dans le sujet auquel l'objet apparaît, non dans l'objet lui-même, mais n'en appartient pas moins réellement et nécessairement au phénomène qui manifeste cet objet. Le temps et l'espace sont donc deux sources où peuvent être puisées a priori diverses connaissances synthétiques, comme les mathématiques pures en donnent un exemple éclatant relativement à la connaissance de l'espace et de ses rapports. C'est qu'ils sont tous deux ensemble des formes pures de toute intuition sensible et rendent ainsi possibles certaines propositions synthétiques a priori. Mais ces sources de connaissances a priori se déterminent leurs limites par la même, par cela seul qu'elles ne sont que des conditions de sensibilité, c'est-à-dire qu'elles ne se rapportent aux objets qu'autant qu'ils sont considérés comme phénomènes, et non comme des choses en soi. Les phénomènes forment le seul champ où elles aient de la valeur. En dehors de là, il n'y a aucun usage objectif à en faire. Cette espèce de réalité que j'attribue à l'espace et au temps laisse d'ailleurs intacte la certitude de la connaissance expérimentale, car cette connaissance reste toujours également certaine que ces formes soient nécessairement inhérentes aux choses mêmes ou seulement à notre intuition des choses. Au contraire, ceux qui soutiennent la réalité absolue de l'espace et du temps, qu'ils les regardent comme des substances ou comme des qualités, cela se met en contradiction avec les principes de l'expérience. En effet, s'ils se décident pour le premier parti, comme le font ordinairement les physiciens et mathématiciens, il leur faut admettre comme éternels et infinis et comme existant par eux-mêmes deux non-êtres, l'espace et le temps, qui, sans être eux-mêmes quelque chose de réel, n'existent que pour renfermer en eux tout ce qui est réel. Que s'ils suivent le second parti, comme font quelques physiciens métaphysiciens, c'est-à-dire si l'espace et le temps sont pour eux certains rapports des phénomènes, des rapports de juxtaposition ou de succession, abstraits de l'expérience, mais confusément représentés dans cette abstraction, il faut qu'ils contestent aux doctrines a priori des mathématiques touchant les choses réelles, par exemple dans l'espace, leur valeur, ou au moins leur certitude apodictique, puisqu'une pareille certitude ne saurait être a posteriori, et que, dans leur opinion, les concepts a priori d'espace et de temps sont de pures créations de l'imagination, dont la source doit être réellement cherchée dans l'expérience. C'est en effet selon eux, avec des rapports abstraits de l'expérience, que l'imagination a formé quelque chose qui représente bien ce qu'il y a en elle de général, mais qui ne saurait exister sans les restrictions qui attachent la nature. Ceux qui adoptent la première opinion ont l'avantage de laisser le champ des phénomènes ouvert aux propositions mathématiques. Mais ils sont singulièrement embarrassés par ces mêmes conditions dès que l'entendement veut sortir de ce champ. Les seconds ont, sur ce dernier point, l'avantage de n'être point arrêtés par les représentations de l'espace et du temps, lorsqu'ils veulent juger des objets dans leur rapport avec l'entendement, et non comme phénomène. Mais ils ne peuvent ni rendre compte de la possibilité des connaissances mathématiques a priori, puisqu'il leur manque une véritable intuition objective a priori, ni établir un accord nécessaire entre les lois de l'expérience et ses assertions. Or, ces deux difficultés disparaissent dans notre théorie qui explique la véritable satire de ces deux formes originaires de la sensibilité. Il est clair que l'esthétique transcendantale ne peut rien contenir de plus que ces deux éléments, à savoir l'espace et le temps, puisque tous les autres concepts appartenant à la sensibilité supposent quelque chose d'empirique. Le concept même du mouvement, qui réunit les deux éléments, ne fait pas exception à cette règle. En effet, il présuppose la perception de quelque chose de mobile. Or, dans l'espace considéré en soi, il n'y a rien de mobile. Il faut donc que le mobile soit quelque chose que l'expérience seule peut trouver dans l'espace, par conséquent une donnée empirique. L'esthétique transcendantale ne saurait non plus compter parmi des données a priori le concept du changement, car ce n'est pas le temps lui-même qui change, mais quelque chose qui est dans le temps. Ce concept suppose donc la perception d'une certaine chose et la succession de ses déterminations, par conséquent l'expérience. Je puis bien dire que mes représentations sont successives, mais cela signifie simplement que j'ai conscience de ces représentations comme dans une suite de temps, c'est-à-dire d'après la forme du sens intérieur. Le temps n'est pas pour cela quelque chose en soi, ni même une détermination objectivement inhérente aux choses. Paragraphe 8. Remarque générale sur l'esthétique transcendantale. Il est d'abord nécessaire d'expliquer aussi clairement que possible notre opinion sur la constitution de la connaissance sensible en général, afin de prévenir tout malentendu à ce sujet. Ce que nous avons voulu dire, c'est donc que toutes nos intuitions ne sont autre chose que des représentations de phénomènes. C'est que les choses que nous percevons ne sont pas en elles-mêmes telles que nous les percevons, et que les rapports ne sont pas non plus tels qu'ils nous apparaissent. C'est que si nous faisons abstraction de notre sujet, ou seulement de la constitution subjective de nos sens en général, toutes les propriétés, tous les rapports des objets dans l'espace et dans le temps, l'espace et le temps eux-mêmes, s'évanouissent. Parce que rien de tout cela, comme phénomène, ne peut exister en soi, mais seulement en nous. Quant à la nature des objets considérés en eux-mêmes, et indépendamment de toute cette réceptivité de notre sensibilité, elle nous demeure entièrement inconnue. Nous ne connaissons rien de ces objets que la manière dont nous les percevons. Et cette manière, qui nous est propre, peut fort bien n'être pas nécessaire à tous les êtres, bien qu'elle le soit à tous les hommes. Nous n'avons affaire qu'à elle. L'espace et le temps en sont les formes pures. La sensation en est la matière générale. Nous ne pouvons connaître ces formes qu'a priori, c'est-à-dire avant toute perception réelle, et c'est pourquoi on les appelle les intuitions pures. La sensation, au contraire, est l'élément d'où notre connaissance tire son nom de connaissance a posteriori, c'est-à-dire d'intuition empirique. Celles-là sont nécessairement et absolument inhérentes à notre sensibilité Quelle que puisse être la nature de nos sensations, celles-ci peuvent être très différentes. Quand même nous pourrions porter notre intuition à son plus haut degré de clarté, nous n'en ferions point un pas de plus vers la connaissance de la nature même des objets. Car en tout cas, nous ne connaîtrions parfaitement que notre mode d'intuition, c'est-à-dire notre sensibilité, toujours soumise aux conditions d'espace et de temps, originairement inhérentes au sujet. Quant à savoir ce que sont les objets en soi, c'est ce qui nous est impossible même avec la connaissance la plus claire de leurs phénomènes, seule chose qui nous soit donnée. Prétendre que toute notre sensibilité n'est qu'une représentation confuse des choses, qui contient absolument tout ce qu'il y a dans ces choses mêmes, mais sous forme d'assemblage de signes et de représentations partielles que nous ne distinguons pas nettement les unes des autres, c'est dénaturer les concepts de sensibilité et de phénomène, et en rendre toute la théorie inutile et vide. La différence entre une représentation obscure et une représentation claire est purement logique et ne porte pas sur le contenu. Le concept du droit, par exemple, dont se sert toute saine intelligence, contient sans doute tout ce que peut en tirer la plus subtile spéculation. Seulement, dans l'usage vulgaire et pratique qu'on en fait, on n'a pas conscience des diverses idées enfermées dans ce concept. Mais on ne peut pas dire pour cela que le concept vulgaire soit sensible et ne désigne qu'un simple phénomène. Car le droit ne saurait être un objet de perception. Mais le concept en réside dans l'entendement et représente une qualité, la qualité morale des actions, qu'elle possède en elle-même. Au contraire, la représentation d'un corps dans l'intuition ne contient rien qui puisse appartenir à un objet considéré en lui-même, mais seulement la manifestation de quelque chose et la manière dont nous en sommes affectés. Or, cette réceptivité de notre capacité de connaître, que l'on nomme sensibilité, demeurerait toujours profondément distincte de la connaissance de l'objet en soi, quand même on parviendrait à pénétrer le phénomène jusqu'au fond. La philosophie de Leibniz et de Wolff a donc assigné à toutes les recherches sur la nature et l'origine de nos connaissances un point de vue tout à fait faux, en considérant la différence entre la sensibilité et l'entendement comme purement logique, tandis qu'elle est évidemment transcendantale et qu'elle ne porte pas sur la clarté, mais sur l'origine et le contenu. Ainsi, on ne peut dire que la sensibilité nous fasse connaître obscurément la nature des choses en soi, puisqu'elle ne nous la fait pas connaître du tout. Et dès que nous faisons abstraction de notre constitution subjective, l'objet représenté avec les propriétés que lui attribuait l'intuition sensible ne se trouve plus et ne peut plus se trouver nulle part, puisque c'est justement cette constitution subjective qui détermine la forme de cet objet comme phénomène. Nous distinguons bien d'ailleurs dans les phénomènes ce qui est essentiellement inhérent à l'intuition de ces phénomènes et à une valeur générale pour tout sens humain de ce qui ne s'y rencontre qu'accidentellement et ne dépend pas de la constitution générale de la sensibilité, mais de la disposition particulière ou de l'organisation de tel ou tel sens. On dit de la première espèce de connaissance qu'elle représente l'objet en soi, et de la seconde qu'elle n'en représente que le phénomène. Mais cette distinction est purement empirique. Si l'on s'en tient là, comme il arrive ordinairement, et que l'on ne considère pas à son tour Ainsi, il convient de faire cette intuition empirique comme un pur phénomène où l'on ne trouve plus rien qui appartienne à l'objet en soi. Alors, notre distinction transcendantale s'évanouit et nous croyons connaître les choses en elles-mêmes, bien que, même dans nos plus profondes recherches sur les objets du monde sensible, nous n'ayons jamais affaire qu'à des phénomènes. Ainsi, par exemple, si nous appelons l'arc-en-ciel qui se montre dans une pluie mêlée de soleil un pur phénomène, et cette pluie une chose en soi, cette manière de parler est exacte, pourvu que nous entendions la pluie dans un sens physique, c'est-à-dire comme une chose qui, dans l'expérience générale, est déterminée de telle manière et non autrement au regard de l'intuition, quelles que soient d'ailleurs les diverses dispositions des sens. Mais si nous prenons ce phénomène empirique d'une manière générale, et que, sans nous occuper de son accord avec tout sens humain, nous demandions s'il représente aussi un objet en soi, je ne dis pas des gouttes de pluie, car elles sont déjà comme phénomène des objets empiriques, la question qui porte sur le rapport de la représentation à l'objet devient alors transcendantale. Non seulement ces gouttes de pluie sont de purs phénomènes, mais même leurs formes rondes et jusqu'à l'espace où elles tombent ne sont rien en soi. Ce ne sont que des modifications ou des dispositions de notre intuition sensible. Quant à l'objet transcendantal, il nous demeure inconnu. Une seconde remarque importante à faire sur notre esthétique transcendantale, c'est qu'elle ne se recommande pas seulement à titre d'hypothèse vraisemblable, mais qu'elle est aussi certaine et aussi indubitable qu'on peut l'exiger d'une théorie qui doit servir d'organum. Pour mettre cette certitude dans tout son jour, prenons quelques cas qui en montrent la valeur d'une manière éclatante et jettent une nouvelle lumière sur ce qui a été exposé. Supposez que l'espace et le temps existent en soi objectivement et comme condition de la possibilité des choses elles-mêmes, une première difficulté se présente. Nous formons, a priori, sur l'un et sur l'autre, mais particulièrement sur l'espace, un grand nombre de propositions apodictiques et synthétiques. Prenons-le donc ici principalement pour exemple. Puisque les propositions de la géométrie sont connues synthétiquement a priori et avec une certitude apodictique, je demande où vous prenez ces propositions et sur quoi s'appuie notre entendement pour s'élever à ces vérités absolument nécessaires et universellement valables. On ne saurait y arriver qu'au moyen des concepts ou des intuitions. Et les uns et les autres nous sont donnés soit a priori, soit a posteriori. Or, les concepts empiriques et l'intuition empirique sur laquelle ils se fondent ne peuvent nous fournir d'autres propositions synthétiques que celles qui sont purement empiriques et qui, à titre de propositions expérimentales, ne peuvent avoir cette nécessité et cette universalité qui caractérise toutes les propositions de la géométrie. Reste le premier moyen, celui qui consiste à s'élever à ses connaissances au moyen de simples concepts ou d'intuitions a priori. Mais il est clair que de simples concepts, on ne peut tirer aucune connaissance synthétique, mais seulement des connaissances analytiques. Prenez par exemple cette proposition. Deux lignes droites ne peuvent renfermer aucun espace, et par conséquent former aucune figure. Et cherchez à la dérivée du concept de la ligne droite et de celui du nombre 2. Prenez encore, si vous voulez, cette autre proposition qu'avec trois lignes droites, on peut former une figure, et essayez de la tirer de ces mêmes concepts. Tous vos efforts seront vains. Et vous vous verrez forcé de recourir à l'intuition, comme le fait toujours la géométrie. Vous vous donnez donc un objet dans l'intuition. Mais de quelle espèce est cette intuition? Est-ce une intuition pure a priori ou une intuition empirique? Si c'était une intuition empirique, nulle proposition universelle, et à plus forte raison, nulle proposition apodictique n'en pourrait sortir, car l'expérience n'en saurait jamais fournir de ce genre. C'est donc a priori que vous devez vous donner votre objet dans l'intuition, pour y fonder votre proposition synthétique. S'il n'y avait point en vous une faculté d'intuition a priori, si cette condition subjective relative à la forme n'était pas en même temps la condition universelle a priori qui seule rend possible l'objet de cette intuition extérieure même, si l'objet, le triangle, était quelque chose en soi, comment pourriez-vous dire que ce qui est nécessaire dans vos conditions subjectives pour construire un triangle, doit aussi nécessairement se trouver dans le triangle en soi. En effet, vous ne pouvez ajouter à vos concepts de trois lignes aucun élément nouveau, la figure, qui doivent nécessairement se trouver dans l'objet, puisque cet objet est donné antérieurement à votre connaissance, et non par cette connaissance. Si donc l'espace, et cela s'applique aussi au temps, n'était pas une pure forme de votre intuition, contenant les conditions a priori qui seules font que les choses peuvent être pour vous des objets extérieurs, lesquels, sans ces conditions subjectives, ne sont rien en soi, vous ne pourriez absolument porter aucun jugement synthétique a priori sur les objets extérieurs. Il est donc indubitablement certain, et non pas seulement possible ou vraisemblable, que l'espace et le temps, comme conditions nécessaires de toute expérience, externe et interne, ne sont que des conditions purement subjectives de notre intuition. Qu'à ce point de vue, tous les objets sont de purs phénomènes, et non des choses données de cette façon, telles qu'elles sont en soi. Enfin, que nous pouvons dire a priori beaucoup de choses touchant la forme de ces objets, mais pas la moindre ce sur les objets en soi qui peuvent servir de fondement à ces phénomènes. À l'appui de cette théorie de l'idéalité du sens extérieur, aussi bien qu'intérieur, et par conséquent de tous les objets, des sens, comme purs phénomènes, on peut faire encore une importante remarque. C'est que tout ce qui, dans notre connaissance, appartient à l'intuition, je ne parle pas par conséquent du sentiment de plaisir, ou de la peine et de la volonté, qui ne sont pas des connaissances, ne contient que de simples rapports, des rapports de lieu dans une intuition étendue, des rapports de changement de lieu, mouvement, et des lois qui déterminent ce changement, force motrice. Mais ce qui est présent dans le lieu, ou ce qui agit dans les choses mêmes en dehors du changement de lieu, n'est point donné par là. Or de simples rapports ne font point connaître une chose en soi. Par conséquent, il est bien permis de penser que, comme le sens extérieur ne nous donne autre chose que de simples représentations de rapports, il ne peut lui-même renfermer dans sa représentation que le rapport d'un objet au sujet, et non ce qui appartient véritablement à l'objet en soi. Il en est de même de l'intuition interne. Outre que les représentations des sens extérieurs constituent la matière propre dont nous remplissons notre esprit, le temps où nous plaçons ces représentations et qui lui-même précède la conscience que nous en avons dans l'expérience et leur sert de fondement, comme condition formelle de notre manière de la disposer dans l'esprit, le temps, dis-je, renferme déjà des rapports de succession ou de simultanéité, et celui du simultané avec le successif du permanent. Or, ce qui peut être comme représentation antérieure à tout acte de penser quelque chose est l'intuition. Comme elle ne contient rien que des rapports, la forme de l'intuition, qui ne représente rien qu'autant quelque chose est déjà posé dans l'esprit, ne peut être autre chose que la manière dont l'esprit est affecté par sa propre activité, ou par cette opposition de sa représentation, par conséquent par lui-même, c'est-à-dire un sens intérieur considéré dans sa forme. Tout ce qui est représenté par un sens est toujours à ce titre un phénomène, et par conséquent, où il ne faut point admettre de sens intérieur, où le sujet qui en est l'objet ne peut être représenté par lui que comme un phénomène, et non comme il se jugerait lui-même si son intuition était spontanée, c'est-à-dire intellectuelle. Toute la difficulté ici est de savoir comment un sujet peut s'apercevoir lui-même intérieurement. Mais cette difficulté est commune à toute théorie. La conscience de soi-même, la perception, est la simple représentation du moi. Et si tout ce qu'il y a de divers dans le sujet nous était donné spontanément dans cette représentation, l'intuition intérieure serait alors intellectuelle. Mais dans l'homme, cette conscience exige une perception intérieure du divers, lequel est préalablement donné dans le sujet, et le mode suivant lequel il est donné dans l'esprit sans aucune spontanéité doit à cette circonstance même son nom de sensibilité. Pour que la faculté d'avoir conscience de soi-même puisse découvrir, appréhender ce qui est dans l'esprit, il faut que celui-ci en soit affecté. C'est à cette seule condition que nous pouvons avoir l'intuition de nous-mêmes. Mais la forme de cette intuition, existant préalablement à l'esprit, détermine par la représentation du temps la manière dont le divers est réuni dans l'esprit. En effet, celui-ci s'aperçoit, non comme il se représenterait lui-même immédiatement en vertu de sa spontanéité, mais suivant la manière dont il est intérieurement affecté, et par conséquent, tel qu'il s'apparaît à lui-même, non tel qu'il est. Lorsque je dis que l'intuition des choses extérieures est celle que l'esprit a de lui-même, représente dans l'espace et dans le temps chacune son objet comme il affecte nos sens, c'est-à-dire comme il nous apparaît. Je ne veux pas dire que ces objets soient une pure apparence. En effet, dans le phénomène, les objets et même les qualités que nous leur attribuons sont toujours regardés comme quelque chose de réellement donné. Seulement, comme ces qualités dépendent du mode d'intuition du sujet dans son rapport à l'objet donné, cet objet n'est pas comme manifestation de lui-même ce qu'il est comme objet en soi. Ainsi, je ne dis pas que les corps ne font que paraître exister hors de moi, ou que mon âme semble simplement être donnée dans la conscience de moi-même, lorsque j'affirme que la qualité de l'espace et du temps, d'après laquelle je me les représente et où je place ainsi la condition de leur existence, ne réside que dans mon mode d'intuition et non dans ces objets mêmes. Ce serait ma faute si je ne voyais qu'une pure apparence dans ce que je devrais regarder comme un phénomène. Mais cela n'arrive pas avec notre principe de l'idéalité de toutes nos intuitions sensibles. C'est au contraire en attribuant à ces formes de représentation une réalité objective qu'on ne peut échapper à l'inconvénient de tout voir converti en pure apparence. Les prédicats du phénomène peuvent être attribués à l'objet même dans son rapport avec notre sens. Par exemple, la couleur rouge ou l'odeur à la rosée. Mais l'apparence ne peut jamais être attribuée comme prédicat à l'objet, précisément parce qu'elle rapporte à l'objet en soi ce qui ne lui convient que dans son rapport avec les sens ou en général avec le sujet. Comme par exemple les deux ans qu'on a attribués primitivement à Saturne. Le phénomène est quelque chose qu'il ne faut pas chercher dans l'objet en lui-même, mais toujours dans le rapport de cet objet au sujet, et qui est inséparable de la représentation que nous en avons. Ainsi, c'est avec raison que les prédicats de l'espace et du temps sont attribués aux objets des sens comme tels, et il n'y a point en cela d'apparence, c'est-à-dire d'illusion. Au contraire, quand j'attribue à la rosée en soi la rougeur, à Saturne d'aisance, ou à tous les objets extérieurs l'étendue en soi, sans avoir égard au rapport déterminé de ces objets avec le sujet, et sans restreindre mon jugement en conséquence, c'est alors seulement que naît l'illusion. Dans la théologie naturelle, où l'on conçoit un objet qui non seulement ne peut être pour nous un objet d'intuition, mais qui ne saurait être pour lui-même l'objet d'aucune intuition sensible, on a bien soin d'écarter absolument de l'intuition qui lui est propre les conditions de l'espace et du temps. Je dis de son intuition, car toute sa connaissance doit avoir ce caractère et non celui de la pensée, qui suppose toujours des limites. Mais de quel droit peut-on procéder ainsi quand on a commencé par faire du temps et de l'espace des formes des choses en soi et des formes telles qu'elles subsisteraient comme condition a priori de l'existence des choses, quand même on supprimerait les choses elles-mêmes. En effet, puisqu'elles sont les conditions de tout en général, elles devraient être les conditions de l'existence de Dieu. Que si l'on ne fait pas de l'espace et du temps des formes objectives de toute chose, il ne reste plus qu'à en faire des formes subjectives de notre mode d'intuition, soit externe, soit interne. Ce mode est appelé sensible parce qu'il n'est pas originaire, c'est-à-dire que l'existence même de l'objet de l'intuition soit donnée par lui. Un pareil mode de connaissance, autant que nous pouvons en juger, ne saurait convenir qu'à l'être suprême, mais qu'il dépend de l'existence de l'objet, et que par conséquent il n'est possible qu'autant que la capacité représentative du sujet en est affectée. Il est nécessaire aussi de limiter à la sensibilité de l'homme ce mode d'intuition qui consiste à se représenter les choses dans l'espace et dans le temps. Il se peut que tous les êtres finis qui pensent aient nécessairement cela de commun avec l'homme, bien que nous ne soyons pas en état de décider ce point. Conclusion de l'esthétique transcendantale. Nous avons maintenant une des données requises pour la solution de ce problème général de la philosophie transcendantale. Comment des proportions synthétiques a priori sont-elles possibles? Je veux parler de ces intuitions pures a priori, l'espace et le temps. Lorsque, dans nos jugements a priori, nous voulons sortir du concept donné, nous y trouvons quelque chose qui peut être découvert a priori, non dans le concept, mais dans l'intuition correspondante, et qui peut être lié synthétiquement à ce concept. Mais par la même raison, les jugements que nous formons ainsi ne sauraient s'appliquer qu'aux objets des sens et non de valeur que relativement aux choses d'expérience possibles.